Bienvenue dans Évasion Poétique, le programme qui vous fait voyager au cœur de vous-même. Découvrez mes créations autour d'une poésie sans frontières, avec l'ouverture des cœurs comme fil conducteur. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Le Liban à fleur de peau ». Il y a quelques années, j'ai eu la chance de visiter le Liban et en particulier la ville fascinante de Beyrouth. J'ai été profondément touché par son histoire, mais aussi par les souffrances endurées par celles et ceux qui l'habitent. À travers deux créations, je vous propose une rencontre avec des visages et des saveurs que je n'oublierai jamais. Bonne écoute. Le Liban précipité dans l'abîme. Les mots qui s'affichent sur mon écran me percutent et rentrent dans ma chair. C'est le titre sur lequel je tombe en parcourant le monde de ce 4 juillet 2020. La veille, un rassemblement a eu lieu dans le quartier de Hamra, à Beyrouth, après le suicide d'un homme de 61 ans qui s'est tiré une balle en pleine rue. Un sans-abri, un anonyme parmi tant d'autres, assis sur une petite chaise en plastique. Sur sa poitrine, un extrait de son casier judiciaire, vierge, et une référence à une chanson qui dénonce l'incurie du pouvoir politique. « Il ne s'est pas suicidé, le gouvernement l'a tué », a-t-on pu lire sur un panneau brandi par une femme. Le feu sacré qui anime tous ces jeunes descendus dans la rue depuis le 17 octobre dernier a été une fois de plus attisé par cette mort. Ils défilent, ils pillent pour être entendus par ceux qui restent sourds à leurs demandes. J'entends leurs cris de colère et de détresse. Je vois les rideaux de fer des magasins baissés dans cette artère commerçante jadis si dynamique. Il y avait l'espoir, il n'y a plus qu'un goût d'apocalypse. Je sens mes doigts trembler. Les visages, les parfums et les sons de mon voyage au Liban me reviennent. C'était en avril 2019, quelques mois à peine avant le début de la révolution. Mais la colère grondait déjà par-delà les boîtes de nuit de Beyrouth, les ruines romaines de Baalbek ou la vallée verdoyante de Bichri. Et puis, d'autres sentiments, la tristesse, la frustration, l'impuissance des Libanais, face à un pays gangréné par la corruption et l'inflation. Le Liban est comme un malade sous perfusion, m'a-t-on alors dit. Et cette perfusion, ce sont les transferts d'argent de ces millions de Libanais émigrés qui permettent à ceux qui restent de survivre. Ils quittent tous leur pays avec l'espoir d'une vie meilleure. Moi, je n'aspirais qu'à une chose, le voir de mes propres yeux. Pourquoi le Liban ? C'est le genre de question que l'on ne nous pose jamais lorsqu'on va aux États-Unis, en Jordanie ou en Islande. Mais le Liban, c'est une autre affaire. Comme dans plusieurs de mes voyages, j'ai découvert le décalage entre nos représentations véhiculées par les médias ou les perceptions de notre entourage et la réalité du terrain parfois très différente. On s'imagine que des milices se promènent avec leurs kalachnikov comme au temps de la guerre civile, que l'on risque sa vie en sortant à Beyrouth comme dans le reste du pays. Même s'il est conseillé d'éviter certaines zones, je ne me suis jamais senti en insécurité. C'est d'ailleurs ce qu'une Libanaise liftée m'a fait remarquer en brandissant ses énormes lunettes Prada. « En France, vous vous la pétez, mais n'empêche que je ne me ferai jamais voler mon portefeuille au Liban. » Je crois qu'elle avait raison. On se la pète trop en France. Alors, pourquoi le Liban ? Cette envie de l'inconnu, bien sûr, de visiter des terres où les touristes sont rares, presque inexistants. Mais pas seulement. Il y a aussi cette fascination pour le Moyen-Orient, ce puits de culture et d'histoire dévasté par les conflits. La gastronomie que j'adore et que j'ai découverte tout petit par une amie syrienne de ma mère. Elle s'appelait Rafika la Bienveillante et elle m'a appris à dire des mots d'amour en arabe. Mais surtout, il y a cette fascinante diaspora. Depuis la fin du 19e siècle, le Liban est un pays d'exilés, une tendance qui s'est accentuée avec la guerre. jusqu'à 14 millions de personnes d'origine libanaise vivraient à l'étranger, pour une population de moins de 7 millions au Liban. Je ne crois qu'aucun autre pays n'est dans cette situation. C'est troublant et fascinant pour moi qui suis fils d'exilés. Je veux comprendre. En ce matin ensoleillé d'avril 2019, je m'assieds à la terrasse d'un petit café du quartier de Hamra. C'est un havre de paix dans une fourmilière aux rues embouteillées et aux klaxons incessants qui ne donnent guère envie de flâner. Le quartier a eu son heure de gloire, mais il y règne une ambiance étrange. Un Libanais m'a dit peu de temps après mon arrivée que les réfugiés syriens y ont élu résidence et qu'il faut être prudent. Je découvre tout des rancœurs entre les deux peuples, de leur histoire sanglante d'union et de désunion, de l'histoire de ce pays qui me fascine pour une raison inexplicable. D'habitude, mes voyages sont organisés, laissant peu de place à l'imprévu. Mais pour la première fois, je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ma semaine. Mes guides de voyage petits futés sont sagement posés sur une table ronde et je ne les ai toujours pas ouverts. Moment de panique tandis que je me rends enfin compte que je suis seul et sans projet. Puis je ferme les yeux, respire l'odeur du café turc que l'on vient de me servir et goûte l'instant. L'instant où le temps est suspendu et où tout est ouvert. Il y a tant de possibles, à vrai dire, que c'en est étourdissant. C'est peut-être ça, l'expérience de la liberté. Cabrianos bascule la tête en arrière et laisse d'épaisses volutes de fumée s'échapper de sa bouche. Son geste est mesuré et élégant, presque érotique. Les effluves vaporeux de menthe et de citron se font plus pressantes à chacune de mes inspirations, alors même que je n'ai pas encore goûté au tabac. La chicha est une véritable institution ici, m'explique-t-il. C'est l'accessoire indispensable pour un moment de convivialité et de partage avec l'autre. Nombreux sont les cafés et restaurants qui en proposent, et il y a même un service de livraison à domicile, comme pour la nourriture. Et puis, la chicha réunit toutes les confessions religieuses qui composent le Liban. Il y en a 18, reconnues et représentées à l'Assemblée nationale. « Tu me fais confiance ?» me dit-il en regardant le menu d'un air amusé. Je hoche la tête. Je connais la gastronomie libanaise, mais je ne me risquerai pas à lui dire ce que je souhaite ou ne souhaite pas. C'est mon premier repas et je veux me laisser surprendre. Nous parlons anglais car son français est un peu rouillé. Comme beaucoup de Libanais, il a étudié en français, mais il l'a oublié, faute de pratique, une fois les études finies. Autour de moi, j'entends un étrange mélange d'arabe, d'anglais et de français, provenant parfois de la même personne. Deux serveurs arrivent bientôt avec d'énormes plateaux qui déchargent avec délicatesse. Notre table déborde d'assiettes plus appétissantes les unes que les autres. Feuilles de vigne farcies au riz, falafel, purée d'aubergine au tahin, taboulé libanais, brochettes de viande grillée au zaatar, foie de volaille au sumac. J'aimerais manger avec le raffinement que ces mets m'inspirent, mais je dévore mes portions comme un goret. Je m'en fiche, c'est succulent. Après une marche dans les rues branchées du quartier de Gamayzeh, nous montons dans la vieille Mercedes vintage de Cabrianos pour voir l'exposition de l'un de ses amis. Dans un bar sont exposées 5 de ses œuvres, représentant des perles cachées de villes libanaises. Les paysages sont méticuleusement reproduits en noir et blanc, tandis que le ciel est colorisé en bleu ciel pour Tripoli, en jaune pour Byblos, en bleu foncé pour Zahlé, en rose pour Tyr et en rouge pour Beyrouth. Regard du dessinateur rigoureux et réaliste et regard du poète qui sait exprimer l'âme d'un lieu. Cabrianos en profite pour me parler de Byblos, la ville d'où il vient, et qui serait l'une des plus anciennes du monde. Fondée par les Phéniciens, elle serait le lieu de naissance et de diffusion de leur alphabet. Mais les influences y sont multiples, les Romains et les Ottomans y ayant également laissé leur empreinte. « Tant d'histoires dans un si petit pays, me dis-je, mais également tant d'occupations et une guerre de presque 15 ans qui a vu s'affronter toutes les communautés. » nous remontons dans la Mercedes pour aller découvrir un autre quartier de Beyrouth. D'un air détendu digne d'un road movie, Cabrianos navigue au milieu des embouteillages et emprunte des raccourcis en s'engouffrant dans des ruelles où je ne me serais jamais aventuré. Les fenêtres grandes ouvertes, au son des refrains de la légendaire chanteuse Fairuz, je me sens chanceux et vivant. Toute la semaine, j'ai l'impression d'avoir absorbé Beyrouth, son vacarme diffus, chaotique, mais étrangement apaisant, par tous les pores de ma peau. Dans ma dernière journée de visite, j'ai été à presque 3000 mètres d'altitude pour observer les cèdres millénaires du mont Liban, encore recouverts de neige, avant de longer les plages de la côte. Les Libanais disent fièrement qu'ils sont le seul pays au monde où l'on peut le même jour skier et se baigner dans les eaux cristallines de la Méditerranée. Demain, déjà le départ. Mais ma dernière soirée s'annonce pleine de promesses. Le Uber me dépose pile à l'heure pour le rendez-vous. Je m'engage dans la petite ruelle, mais j'ai beau regarder sur mon téléphone pour m'orienter, je ne parviens pas à localiser l'entrée du bar au nom si énigmatique. C'est l'un des deux seuls bars officieusement gays de Beyrouth. Au fond de la cour, je distingue une porte et un escalier extérieur. Mais les fenêtres de l'étage sont cachées par des volets et aucune lumière ne filtre. Sans doute ce bar est-il tenu secret ? Je m'aventure dans la cage d'escalier et tombe nez à nez avec un colosse qui me toise de haut en bas. Il me laisse rentrer dans ce qui ressemble à un grand appartement avec de hauts plafonds. Après le calme de la ruelle, la musique jusque-là étouffée par les murs m'engloutit. Des dizaines de personnes se trémoussent dans une grande salle carrelée. Des étagères murales couvertes de bouteilles d'alcool habillent l'imposant comptoir du bar. Je trouve Émile et ses invités dans une petite salle intime, aux lumières tamisées. Il porte une couronne et des ballons dorés en forme de chiffres indiquant son âge, 27 ans. Habibi, tu es venu ! Il me fait signe en secouant la main qui tient les ballons. Et j'éclate de rire. C'est tellement incongru, tellement peu moi, de venir à la soirée d'anniversaire d'un quasi-inconnu avec qui j'ai sympathisé sur les réseaux sociaux. Et pourtant, pourrais-je être plus béroutin que ce soir en plongeant dans la vie de ceux que je côtoie depuis maintenant quelques jours ? Émile me présente à son petit ami, un photographe, et à ses autres invités. Beaucoup d'entre eux n'habitent pas à Beyrouth même, mais en banlieue, voire au nord du pays. Le Liban est tellement petit que l'on peut vivre dans les montagnes et venir faire la fête dans la capitale le soir. Une autre chose me frappe. Ils sont tous si jeunes par rapport à moi. Pendant ce voyage, j'ai eu l'impression qu'une tranche générationnelle, la mienne, celle des trentenaires, était sous-représentée. Enfin, tous les amis d'Émile sont gays. Ce communautarisme est fréquent ailleurs, mais ici l'identité sexuelle rassemble encore plus. Certes, Beyrouth fait figure d'exception dans le Moyen-Orient. La vie nocturne gay y est réputée et tolérée tant qu'il n'y a pas de marque de démonstration. Mais la société reste extrêmement conservatrice, toutes religions confondues. Aucun des invités n'a fait son coming out à sa famille et peu oseront le faire de leur vivant. Être gay au Liban et dans beaucoup de pays arabes, c'est donc partager le même lourd secret, le même non-dit, que l'on enfouit au plus profond de soi comme une malédiction. Dans la pénombre de la petite salle du bar, les langues se délient. On se livre, on ouvre son cœur. Mais même lorsque la soirée bat son plein, on reste discret et on ne fait que se frôler. Le danger n'est jamais loin. La si chère liberté ne sera bien souvent acquise qu'au prix de la fuite du pays pour pouvoir librement vivre sa sexualité. Ce n'est pas la première fois que le fait d'en apprendre plus sur la condition des gays dans un pays étranger me fait réfléchir à mon propre vécu. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression de me prendre une claque. Moi, je peux me déclarer gay sans craindre d'être pourchassé par l'État. Ici, une agression homophobe ne sera jamais déclarée, car elle pourrait conduire à la prison pour la victime. Oui, j'ai beaucoup de chance par rapport aux gays libanais. Mais même ici, en Europe, des jeunes sont chaque année mis dehors ou violentés pour leurs différences. Il faut une bonne dose de courage pour s'assumer, où que l'on soit. Et s'assumer, ce n'est pas seulement le fameux coming out à sa famille ou à ses amis. C'est le travail de toute une vie qui est sans cesse réactivé. J'ai sans doute choisi la voie la moins ardue, celle empruntée par tant d'autres avant moi du « je ne suis pas comme les autres, mais je fais comme si je l'étais ». Je m'habille de manière assez classique, même si j'ai parfois des envies d'extravagance. Je ne tiens jamais la main de mon compagnon dans la rue. Pourquoi ai-je fait ces choix, quand d'autres sont prêts à exprimer totalement qui ils sont? Est-ce par pudeur? Il y a un peu de ça, oui. Mais j'ai surtout tout fait pour éviter que se perpétuent les moqueries subies étant jeune. Ma première insulte homophobe reçue de plein fouet lorsque j'avais à peine 10 ans. Pédale. Mais aussi les sourdes invectives pour ne pas jeter l'opprobre sur la famille. Ne bisouille pas les garçons. Ne fais pas l'efféminé. Ou encore les innombrables plaisanteries qui ne sont jamais neutres, car elles martèlent et assènent la différence. Tu n'as pas de poils, tu pourrais être une fille. Sans parler des moqueries racistes ou liées à mon surpoids d'adolescent et à mon asthme. Cet asthme qui, de malédiction, était devenu mon salut pour obtenir des dispenses médicales et ainsi éviter les cours de sport. J'avais une peur bleue des sports collectifs. Le regard des chefs d'équipe qui passent d'un garçon à l'autre avant de vociférer les prénoms des joueurs sélectionnés. Le choix qui s'amenuise petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. Et, à ce moment précis, l'envie de disparaître de ce monde qui me rejette. « Ah non, pas lui, je préfère être avec l'homme invisible !» a dit un jour devant toute la classe le chef d'équipe qui me récupérait. Invisible. Il m'a fallu devenir invisible pour ne pas céder aux idées noires, pour survivre. Mais en me rendant invisible, j'ai créé ma propre prison dont il me faudrait une vie pour sortir. Comment exprimer cette détresse dans laquelle j'étais enfermé? Il y a des choses dont on peut parler, d'autres pas, surtout à l'adolescence. Il est facile de se plaindre de ce que notre entourage comprend parce qu'il l'a vécu. Mais ma sexualité, j'étais seul à la vivre. Sans repère, sans modèle, à une époque où il n'y avait pas toutes ces émissions américaines et ces séries Netflix. Comme beaucoup, je me suis donc lancé dans la recherche d'acceptation sociale et de la normalité, celle qui me permettrait de rentrer dans les rangs, de me fondre dans la masse pour ne plus être épinglé pour ma différence. Il s'agit néanmoins d'une quête vaine et insatiable. On ne se considère jamais suffisamment normal ou protégé par cette recherche illusoire de la perfection. Comme si on pouvait se situer au-dessus de toute moquerie et de toute critique. Comme si on n'était pas devenu soi-même son propre bourreau. Car ces jugements, on finit par les internaliser et on les laisse guider nos choix. Mais les artifices ne fonctionnent qu'un temps, et tôt ou tard, les cadavres du passé ressurgissent. Il m'arrive encore de baisser les yeux ou de raser les murs en passant devant un groupe de balourds en train de rire. De qui? De moi? Je passe alors telle une ombre. Je retiens ma respiration et cesse d'exister l'espace d'un instant. Jusqu'à lentement refaire surface, mais jamais indemne de ce déni de moi. À chaque fois que je me rends invisible, je piétine qui je suis, je piétine ma différence, je piétine ma fierté. C'est tout ça qui me revient lorsque, à cette soirée d'anniversaire béroutine, je vois les amis d'Émile se trémousser sur la piste de danse. En France, on les qualifierait de folles et on rirait un bon coup. Car ça n'est pas méchant, et puis ils le cherchent un peu à en faire des tonnes pour attirer l'attention. On n'imagine pas ce qu'un tel mot peut recouvrir comme vécu, comme humiliation, comme souffrance. Mais moi, je vois au-delà des apparences. Là, dans l'espace clos de ce bar, aux lourdes persiennes et aux murs calfeutrés, je ressens leur tristesse, leur peur, leur frustration et leur colère. Je ressens le lourd secret qui les lie et le silence derrière lequel ils sont emmurés. Ils sortent et dansent dans la nuit éphémère, un exutoire pour se retrouver et oublier leurs conditions qui, sinon, les rendraient fous. Ici, plus besoin d'être invisible. Ici, plus besoin de faire semblant. Je me joins à eux et me déchaîne sur des chansons qu'ils chantent à tue-tête. Je danse pour rendre grâce, pour célébrer ce voyage au Liban et cette soirée épiphanique. Et peut-être aussi pour oublier. La salle est pleine à craquer. Face à la baie vitrée qui s'ouvre sur la nuit d'encre, une estrade avec une harpe et deux pupitres. Tout autour, des murs de marbre blanc veinés de noir. Le décor est austère et intimidant, mais l'atmosphère étrangement intime. Les deux femmes montent sur scène et se présentent. Nadine, la soprano, est libanaise, et Anna, la harpiste, polonaise. Ensemble, elles parcourent le monde pour récolter des fonds pour les étudiants du Conservatoire national de musique de Beyrouth. À cause de la crise qui gangrène le pays, ceux-ci n'ont même plus les moyens de se procurer leur outil de travail. Elles jouent et chantent donc pour les jeunes générations, pour un pays qui s'effondre et dont elles tentent de ralentir la chute. Nadine, vêtue de sa robe noire brodée de fils d'or, prononce les premiers mots du récital. Lis Beyrouth. C'est le titre du concert et celui de la chanson la plus connue de la chanteuse libanaise Fairouz. Elle a les paumes légèrement tournées vers le ciel, les cheveux simplement détachés sur ses épaules. Elle reste immobile, tandis que les paroles, en arabe, sortent de sa bouche et fendent l'air au son cristallin de la harpe. Lentement, nous nous laissons glisser avec ces deux femmes dont nous ignorons tout. Nous accueillons leurs vibrations, tantôt nostalgiques, tantôt enlevées, mais toujours paisibles. Lentement, nous renonçons à nos vies pour nous dissoudre tout entier dans l'harmonie. Il y a quelque chose de rassurant dans ce lâcher-prise inattendu et soudain. Un sentiment de confiance, de s'en remettre à la beauté brute de l'émotion. Dans la salle, il n'y a plus un bruit, plus une âme qui n'est pas la musique. Le temps d'un chant, je me promène à nouveau dans les rues embouteillées de Beyrouth, où le chaos environnant se mêle à des fragrances âcres, suaves ou musquées. Je suis entouré d'immeubles défigurés, dont les débris sont des entrailles à ciel ouvert. Je sens entre mes doigts les éclats des milliers de vitres soufflées par la double explosion du port. Sous mes semelles, le verre craque comme un manteau de neige fraîche. Je vois les murs aux tacs fatigués de la révolution d'octobre. Tout autour de moi, des jeunes qui disparaissent un à un, happés par le halo de la promesse d'un ailleurs plus clément. Au bord de la route, j'aperçois un vieillard fumer des cédars, la marque de cigarette la moins chère. Il a un regard triste, mais résigné. Cette fumée qu'il crache dit son désir de se tuer à petit feu. La ville voulait faire peau neuve après la guerre, mais courbe de nouveau l'échine, frappée en plein cœur par de nouvelles blessures. Et pourtant, elle se tient toujours debout, agitant ses longs bras où sèche le linge coloré des familles, maintenant l'espoir ténu que ses enfants retombent comme toujours sur leurs pattes. Le répertoire se déploie peu à peu, nous enveloppant toujours plus dans son doux manteau. Des mots en français, en anglais, en arabe et en polonais résonnent, comme animés d'une volonté propre. Nous ne saisissons bien souvent que des bribes, mais ce brassage culturel nous hypnotise, comme s'il s'agissait d'incantations. Du temps d'un chant, je me retrouve à la cour du roi Henri VIII d'Angleterre, dont la voix de ténor interprète l'une de ses propres créations. La lumière des flambeaux de la grande salle, réfléchie par les vitraux, lui donne une allure majestueuse, presque divine, dans son volumineux manteau doublé de fourrure. Le délicat frémissement des robes me projette alors dans la verdoyante campagne anglaise, où les épis de blé frissonnent sous l'effet du vent et de la caresse de mes mains. Je sens le labeur des champs, je sens la transpiration qui coule sur les corps burinés par le soleil. Je sens une foire qui se prépare au port de Scarborough et dont les étals attirent marchands et artistes de toute l'Angleterre. L'ambiance y sera à la fête, entre spectacles de jongleurs et musiciens tonitruants. Une pause, une respiration. Puis les doigts parcourent la harpe dans une course effrénée pour dévoiler une cascade de nouvelles harmonies. Le temps d'un chant, je dors à la belle étoile, admirant la voie lactée et les constellations de diamants, portées par les vagues célestes et délicates de Debussy. L'herbe est fraîche et gorgée d'humidité en cette nuit d'octobre, mais je m'y enfonce comme dans un lit douillet, réchauffé par l'énergie de la terre. Je me sens poussé des racines et des ailes, ancré au sol et les yeux perdus dans l'infini. Je distingue toujours Nadine et Anna en toile de fond, à la fois humbles et nobles comme des reines. Elles sont les magiciennes de ces lieux sacrés qui prennent vie et s'animent sous nos yeux. Nous nous abandonnons au creux de leurs mains, à quelques notes suspendues dans l'air. Le temps d'un dernier chant, je goûte à nouveau la saveur vertigineuse de l'été. Les notes de Gershwin se déploient au-dessus de moi comme les immenses branches protectrices d'un cyprès de Louisiane. Je songe aux mers d'huile, aux plages, aux odeurs de crème solaire, aux falaises d'une blancheur éblouissante. Je songe au soleil enfin dévoilé, je songe aux journées où la lumière cède tardivement à l'obscurité, je songe au retour de nos voyages entravés. Face à l'eau, les pieds enfoncés dans le sable brûlant, j'admire la ligne d'horizon, parfaitement droite. Elle semble à la fois à portée de main et inatteignable, comme cet été que je désire et que ma peau craquelée réclame. La voix s'éteint dans la nuit mystérieuse, lointain écho d'autres mondes où vibrent encore pour quelques secondes les cordes de la harpe. Un grondement sourd retentit autour de moi, menaçant de m'engloutir, de me réveiller. Je ne veux pas me réveiller. Je veux continuer à embrasser cette beauté, à l'absorber par tous les pores de ma peau pour la garder en moi. Ne plus la laisser partir. Me souvenir de ce que c'est d'être subjugué et de se laisser aller sans la moindre crainte. Me souvenir de cet espoir soudainement retrouvé. J'ai l'espoir que l'art est encore vivace, qu'il est encore puissance d'évocation et de changement, qu'il est encore union et réunion. J'ai l'espoir que l'art restera debout, comme Beyrouth, malgré les privations, malgré les fermetures, pour nous faire effleurer l'éternité. Le concert prénommé Libérouth, dont je vous ai parlé aujourd'hui, était un duo avec la voix de Nadine Nassar et la harpe d'Anna Sikorza-Kolek. Il a eu lieu le 11 décembre 2021 à Bruxelles, à la Villa en Pins.